mercredi 15 mai, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, la Cour supérieure a refusé d'accorder l'injonction provisoire que réclamait l'Université McGill et qui visait à démanteler le campement pro-palestinien érigé sur son campus. Dans sa décision, le tribunal explique que le critère d'urgence est essentiel pour accorder une telle demande, mais souligne que l'Université McGill n'a pas réussi à faire preuve du caractère urgent de la situation lors des audiences qui ont eu lieu en début de semaine. Le juge précise d'ailleurs qu'aucun événement sérieux ou violent s'est produit depuis l'érection du campement et ajoute que même la tenue d'une contre-manifestation au début du mois s'est déroulée pacifiquement. Ce refus de la Cour fait en sorte que les manifestants peuvent pour l'instant demeurer sur le campus de l'Université McGill et que tout indique que les policiers ne vont pas intervenir à court terme. Plus de 9 ans après les faits, un homme est accusé du meurtre prémédité de Jenick Dalcourt, cette femme de 23 ans retrouvée morte sur une piste cyclable de Longueuil en 2014. Michael McDuff-Jalbert, 35 ans, a comparu ce matin. L'individu avait été arrêté une première fois dans l'affaire, mais on l'avait libéré faute de preuves. Cette fois, le DPCP semble confiant d'obtenir une condamnation, sans confirmer toutefois ce que les policiers ont affirmé ce matin, à savoir que des preuves scientifiques ont permis son arrestation. On écoute la procureure au dossier, Maître Julie Vincent.
Compte tenu du dossier qui est en cours, pour ne pas compromettre l'intégrité du processus en cours, évidemment, je vais m'abstenir de commentaires sur la preuve qui est au dossier.
Pour la famille de Jenick Dalcourt, c'est un soulagement et un retour en arrière. Ses parents étaient présents dans la salle de cour en compagnie de plusieurs enquêteurs de l'équipe des crimes non résolus. Le fédéral annonce 1 milliard de dollars en travaux sur 25 ans pour rénover le pont de Québec afin de prolonger sa durée de vie. La moitié de l'enveloppe servira à la peinture de la structure cédée à Ottawa par le CN. Philippe-Rodrigue Comeau.
Justin Trudeau reconnaît que sa promesse traînait depuis des lunes.
Ça a pris 8 ans. C'est ça que ça a pris. Mais on l'a livré.
Mais voilà que le premier ministre confirme enfin que la pérennité du pont de Québec est assurée puisqu'Ottawa s'engage à réaliser 40 millions de dollars de rénovation par année jusqu'en 2050.
Ces investissements vont permettre de prolonger la durée de vie du pont pour des décennies à venir.
8 ministres des Transports fédéraux différents ont négocié le rachat du pont avec le CN avant d'en venir à un accord. Pablo Rodriguez étant le dernier.
Ça a pris longtemps, ça a joué rough d'un coin par moment, mais on l'a eu, notre deal.
Au passage, Justin Trudeau laisse entendre que la réhabilitation du vieux pont centenaire est aussi une mauvaise nouvelle pour les partisans du troisième lien.
Avec ce pont qui est garanti pour les prochaines générations, ça enlève peut-être la pression sur certains arguments.
Philippe Rodrigue, comme au Cogeco Nouvelles, Québec.
Éric Duhaime croit qu'un système mixte d'assurance privée et publique permettrait de désengorger le réseau de santé au Québec. Le Parti conservateur a comparé les pratiques dans plusieurs pays d'Europe et en vient à la conclusion qu'il faut augmenter la présence du privé au Québec. Louis Lacroix.
L'étude présentée par le porte-parole conservateur en santé, le docteur Karim El Ayoubi, compare le système québécois à ceux de la Suisse, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Là-bas, le privé côtoie le système public.
Le privé meilleur que le public pour ça, pour trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes.
Selon lui, il faut permettre aux Québécois de contracter une assurance privée pour pallier au manque du système public. Tout le monde y gagnerait, selon le docteur El Ayoubi.
Incluant les gens plus moins fortunés, incluant les pauvres, d'accéder plus rapidement au réseau de santé.
Mais est-ce légal?
Il s'agirait seulement d'abolir les articles 11, l'assurance hospitalisation, et l'article 15 de la loi sur l'assurance maladie.
Il croit aussi qu'il faut augmenter le nombre de médecins et d'infirmières. Mais pour les prendre où?
Il faut en former plus, OK?
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle-Québec.
Et la vie du premier ministre de la Slovaquie est en danger après qu'il ait été atteint par balle. Aujourd'hui, Robert Fico sortait d'une réunion du gouvernement lorsque l'attaque est survenue. Un suspect est détenu, mais son mobile n'est pas connu. Vous écoutez Cogeco Nouvelle.
Chez Pièces d'auto économiques de Rivière-du-Loup et Rimouski, nous avons le meilleur rapport qualité-prix de l'industrie. Pour auto et camions, nous avons les pièces dont vous avez besoin. Batteries et amortisseurs de toutes marques. Frein Bosch et Perfect Stop à 15% de rabais supplémentaires. Faites vite, cette promotion est valide jusqu'au 31 mai. Pièces d'auto économiques à Rivière-du-Loup sur la rue Fraser et à Rimouski sur la montée industrielle et commerciale. Le Festival Country Western de Saint-Gabriel-de-Rimouski aura lieu du 5 au 11 août. Rodéo, gymkhana, tir de chevaux, spectacle de musique d'artistes country, danse country, concours forestier et place famille avec jeux et spectacles. Forfait en pré-vente à prix spéciaux pour un temps limité. Procurez-vous les vôtres rapidement à festivalsaintgabriel.com. Une invitation de service M. Gagné Incorporé, entrepreneur général, présentateur officiel du Festival Country Western de Saint-Gabriel. Un festival à ne pas manquer.
CFIX FM 93. Le sport, les nouvelles d'ici, les enjeux de l'heure, les sujets qui vous mettent et qui vous mettent. Vous allez en entendre parler à CFIX FM 93.
Jusqu'à 15h, vous écoutez Sans réserve.
Sans réserve.
L'émission d'affaires publiques. Voici Luc Ferrandez.
Manufacturé sur place. Oh. Reçu bon pour toute occasion. Tu mettras ça dans ton sac. Ça va seulement servir un jour. Gratuit dans ton remboursable. Zéro étiquette, feu polso. Du stock comme
Dans les magasinages, il y a un sondage qui est sorti qui indique que les friperies vivent un nouvel âge d'or au Québec. Selon le sondage par le Conseil québécois du commerce de détail, donc très sérieux, 1000 Québécois sondés, dans les 12 derniers mois, 56% des Québécois ont acheté des produits de seconde main dans un commerce. Et ceux qui le font souvent sont 20%, ceux qui le font parfois sont 50%. Les consommateurs qui ont fréquenté l'an sont passés de 14 à 25% en un an. Et dans une vie, c'est 82% des gens qui vont le faire. Et la question du jour, donc une question aussi complexe que ça, exige des experts. Aujourd'hui, nous sommes allés chercher un panel international, d'une part, et d'autre part, fortement informé sur les achats, puisqu'ils sont tous cassés à force de consommer. Geneviève Peterson, j'entends regardant que je disais ça. Geneviève
Peterson,
Marie-Ève Tremblay. Oui, mais si tout était vrai, tout était vrai.
Il y aurait moins de magie, je sais.
Ouais, c'est ça. Jérémy Filosa, Philippe Léger, Micker Guerrier. Micker, t'as l'air d'un gars qui a jamais mis les pieds dans un magasin de linge usagé.
Tu serais surpris. J'ai été pas plus tard qu'en fin de semaine.
Ça, c'est pas les vêtements que tu portes ici, là.
Non, pas ceux-là, quand même. Okay, là, je m'en vais à la télé. Mais non, mais pour avoir l'air cool et à la mode, ouais, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mon seul problème, c'est que dans les friperies, il y a rarement des tailles pour les grandes personnes comme moi. C'est des tailles pour enfants comme pour Philippe Léger, par exemple. Mais, moi, 6 pieds 4, 260 livres, c'est un peu tough, là.
Mais c'est parce que c'est des personnes âgées qui vivent de leur garde-robe puis qui
sont tout petits, ouais. C'était 5 pieds 4 en descendant, c'est ça. Mais, oui. Mais j'y vais, puis j'ai toujours aimé ça. Il y a toujours une pièce ou deux de morceaux. Je vais pas faire mon garde-robe au complet avec des vêtements usagés, mais de temps en temps, il y a des morceaux intéressants.
Mais toi, est-ce que t'es quelqu'un qui aime ça chercher? Parce que moi, c'est ce que j'aime moins des friperies, c'est-à-dire il faut fouiller, passer du temps pour dénicher finalement le morceau qui... Moi, je n'ai pas cette patience-là, ni l'intérêt.
Moi, heureusement, j'ai une amie qui m'aide, moi, qui adore ça, qui me sert de styliste de temps en temps. On va dans d'autres magasins à rabais, là, pas nécessairement du usagé, mais des vêtements en fin de parcours très souvent. Puis on déniche des morceaux vraiment intéressants.
Il y a du monde à Renaissance. En tout cas, il y a Renaissance au coin de chez nous. Là. Hey, my God, le samedi, là.
Attention, là. Les magasins de seconde main de friperie, là, c'est pas seulement Renaissance, là.
Non.
Il y a toutes sortes de magasins de seconde main.
Vintage.
Vintage ou peu importe de luxe qui existe. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours la difficulté. Est-ce qu'on veut porter du linge qui a peut-être été déjà porté par quelqu'un d'autre? Ça peut être un, comment on pourrait dire ça? Un no-to?
Un no-go. Ça peut être rebutant.
Voilà. Ouais. Moi qui défends la langue française,
c'est toujours. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Mais, quand il y a certaines boutiques, là, qui sont super, là. Je pense à une boutique, je pense que c'est sur Saint-Denis, le Carole, que j'ai déjà allé, qui a plein de morceaux hyper stylés. C'est bien, là.
Ma fille, il va souvent.
Yes, je suis jeune, c'est ça que t'as rien
à dire? Oui, non, oui, pas nécessairement. Oui, je
suis frais selon Maker et jeune selon Geneviève.
Oui, exact.
Mais moi, je vois une autre raison pour laquelle les gens se tournent vers les friperies. Oui, c'est sûr que l'inflation explique en partie ce phénomène-là, mais on est quand même dans un moment où on parle beaucoup de réduire notre consommation, surtout par rapport à la mode rapide aussi, de moins consommer, une espèce de réduction d'achat. Là, je pense qu'il y a des gens qui, pour des raisons environnementales, fréquentent davantage ces endroits-là, puis les familles aussi. Parce que puis c'est pas nécessairement pour des raisons économiques essentiellement, c'est de dire j'ai 3 enfants, 2 enfants, ils grandissent à vitesse grand V, est-ce que vraiment je vais aller leur acheter du linge neuf à chaque fois qui sera plus bon dans 2-3 mois? Puis tu sais, il y a beaucoup de choix là. Moi, j'habite dans le quartier Rosemont, il y a un Renaissance, et quand tu entres et que tu te rends sur l'étage des vêtements d'enfants, je veux dire, il y a des marques là, il y a du 2x2, il y a toutes sortes d'affaires, puis les vêtements sont en très très bonne condition. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller chercher des vêtements pour mes enfants. Pour moi, un peu moins, parce que on en parlait avec Marie-Ève avant de commencer le segment. On n'aime pas chercher, on n'aime pas ça.
Mais, ouais. Mais on sous-estime beaucoup, parce que là, on parle des boutiques, on parle des magasins, mais on sous-estime beaucoup les échanges qui se font en personne.
Ah oui, c'est vrai, ah, ça.
Qui sont pas en boutique, le fameux switch and bitch que les filles ça, le connaissent. on se réunit, on prend tous les vêtements dont on n'a plus envie, dont on n'a plus besoin, on les met dans un paquet, puis on se les vend à une pièce, on se les échange en buvant du vin et en bitchant, d'où l'expression.
Mais la aussi, partie la plus fun.
Mais ah, aussi, les enfants, on le fait beaucoup pour les enfants, sans se poser la question. On ramasse les vêtements de nos enfants qui ont grandi, on les donne à des amis qui vont avoir des enfants ou qui des enfants plus jeunes. Moi, j'ai presque rien acheté pour ma fille dans les dernières années parce que mon cousin a des enfants plus vieux et on a des amis qui ont des enfants plus jeunes, donc ça se passe.
Ça reste dans la famille, c'est ça, exactement. Mais,
et même à l'extérieur.
Mais, tu sais, je trouve que le linge, tu sais, je suis allé, mettons, aux Galeries d'Anjou, il y a de ça quelques mois, j'avais besoin de quelques chandails. Je veux dire, le markup, là.
Oui, c'est cher.
Ça n'a aucun bon sens. Genre, une chemise blanche, ben de base, là, tu vois, chez l'abbé, là, t'en as...
120$.
C'est ça, là, tu dis, une chemise blanche, là. Ouais. Là, tu dis...
Dans ton PSA, 25$.
J'ai comme l'impression que cette chemise-là, elle vaut pas 120$.
Attends, t'en revois en sol quelques mois plus tard, puis elle est rendue à 29,95. Ça, il n'y a rien qui m'insulte plus que ça, parce que tu dis, ils font encore un profit au bout de tout ça.
Ben, tu sais, comme tu vois souvent, tu vas aller chez Winners, tu vas trouver des chemises de renom, puis bon, c'est la chemise d'il y a deux ans, il y a trois ans, rendue 19,99.
Une chemise blanche.
Puis ils font quand même de l'argent. Fait qu'imagine-toi le gars à 120. Alors, les gens, ils cherchent d'autres options. Tu sais, ça n'a pas d'allure de dépenser cet argent-là pour.
Puis dans la catégorie pas d'allure, c'est les jeunes garçons avec les vêtements de sport.
Des survêtements à 300$, s'il vous plaît.
Ah oui, c'est là. Ça. J'ai des survêtements.
Il y en a même des enfants.
495, le nouveau Nike un peu gonflé. Ah ouais. Là.
Non, mais toi, tu as un ado, une running, tu sais qu'ils veulent ça. T'es comme, non.
Toi, t'es un amateur de souliers.
Oui.
Tu sais, je me souviens d'avoir vu un reportage, ça fait quand même une dizaine d'années de ça, mais Nike fait faire la majorité de ses souliers en Chine. Tu sais, ça coûte c'est à peu près 5$. Au total. Tu sais, la main-d'œuvre, le matin, 5$.
Ben, les sacs à main griffés aussi, c'est quelque chose. Là, à un moment donné, je comprends que c'est du vrai cuir, mais est-ce qu'un sac Yves Saint-Laurent, ça vaut vraiment 5 000$? C'est sûr que non.
Quand tu l'as porté toute l'année, ta sacoche, ça va être aussi maganée.
Mais non, mais c'est ce qui fait qu'on élimine plein de gens, puis c'est ça le but, là, c'est qu'on s'arrange pour qu'il y ait seulement une certaine clientèle qui puisse se procurer ça.
Mais il existe justement du deuxième main pour ces produits-là de très grands.
Moi, j'en ai acheté. Oui, j'ai acheté des sacs griffés dans des friperies de luxe. Absolument, oui, tu as le certificat.
Parce que les copies sont très bonnes aussi.
Oh my God! C'est incroyable aujourd'hui. Là. J'ai regardé des documentaires là-dessus, puis même les experts se font avoir avec les sacs, les souliers. Ils ont beaucoup de difficultés.
Attends, je regardais un TikTok, justement, Maker, sur les espadrilles, puis il y a une fille qui se rend dans un magasin, ça se passe en France, puis elle dit, j'ai acheté une paire de Nike à une amie à moi, puis c'était la collaboration entre Gucci. Nike, puis je sais pas si c'était Gucci.
Oui, mon fils les a, eux autres.
En tout cas, donc, c'était une grande marque comme ça, puis là, elle dit, mais je commence à douter parce que... C'était pas très cher quand même. C'était quand même 1 000 euros qu'elle avait payé. Mais c'était quand même, en tout cas, ben oui, absolument. Fait que le gars, il dit, j'espère que c'est une bonne amie. Il a sorti une espèce de lampe avec UV, là. Mm-hmm. Puis là, on pouvait voir toutes les petites traces de couture. En fait, c'est pas des traces de couture, c'est un crayon à l'encre invisible pour que les machines de contrefaçon puissent faire la couture au bon endroit sans qu'on puisse le voir. Hein? Donc, eux, ils ont une façon très, très, très rapide de vérifier si c'est de la contrefaçon. Donc, mais nous, visuellement, on s'en rend pas compte.
Non, c'est ça.
Mais c'était par les smets. Mickey me regarde, il y a comme l'air de vouloir dire des choses.
C'est que, oui, c'est reconnu, mais il y a aussi un marché.
Mais
parce qu'il y a, on parle de ce qui est de la contrefaçon, mais ce qui arrive aussi, c'est qu'on parlait de chaussures faites en Chine, par exemple. Mais il y a un certain nombre de chaussures qui ne passeront pas le test de l'entreprise qui les a commandées. Et même ces entreprises-là, ces usines-là vont faire plus de, mettons, Luc, t'en commandes 200. L'usine va en faire 250. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver aux 50 de plus? Ça va être un marché parallèle. En fait. Donc, c'est exactement ou presque comme la marque que tu voulais, mais on va vendre ça un peu en dessous de la table, puis on va se mettre de l'argent directement dans les poches et ça va se retrouver sur le marché, ça va inonder le marché
parfois. Mais je comprends les gens de vouloir chercher des alternatives. Mm-hmm. Tout est rendu tellement cher.
Ça s'appelle lâcher les vêtements de luxe puis acheter des vêtements utiles.
Mais par ailleurs, moi, j'ai entendu un commentaire de quelqu'un, c'est en lien avec les friperies, là. Je ne vais pas y aller parce que je veux les laisser pour les personnes, ces vêtements-là ou ces objets-là, pour les personnes qui ont des difficultés.
Ouais, c'est vrai, ça, qu'on l'entend.
Mais c'est faux. Puis Geneviève le parlait, il y a beaucoup de personnes qui vont pour une conscience environnementale et tout ça, puis il y en a à pocheter des vêtements. Je sais pas si vous êtes déjà allé en porter, là. Il y en a, il y a un énorme roulement. C'est vraiment pour tout le monde.
Ils peuvent même pas tous les mettre en vente. C'est malheureux. Ouais.